Ce matin, nous lirons un texte qui vient de la pause spirituelle de jeudi dernier. Je vais donc lire le premier chapitre du livre de Ruth. Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner en immigré au pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie et le nom de ses deux fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphratites de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab et y vécurent. Puis Élimélec, le mari de Noémie, mourut et elle resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi tous les deux. Et la femme resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors elle revint du pays de Moab avec ses belles-filles. En effet, elle avait appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle quitta le lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles avec elle. Elles se mirent en route pour retourner en Juda. Noémie dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune de vous retourne chez sa mère. Que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent alors à sangloter et elles lui dirent, « Non, nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi, et si ce soir même j'étais remariée et que je mette des fils au monde, « attendriez-vous pour cela qu'ils grandissent ?»« Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à t'abandonner ou à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il y ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, l'émotion gagna toute la ville. Les femmes disaient, « Est-ce là Noémie ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie. Appelez-moi Mara, ce qui signifie amère. Car le Puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais partie comblée, le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? Le Seigneur a témoigné contre moi, le Puissant m'a fait du mal. » Ainsi, Noémie revint, et avec elle sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui venait du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Le livre de Ruth commence par une fin. La fin d'une famille. Élimélec, qui a migré de Bethléem en Juda au pays de Moab avec sa femme Noémie et ses deux fils, Malon et Kilion, meurt. Et même si les deux fils épousent deux femmes moabites, l'histoire ne va pas beaucoup plus loin parce qu'ils meurent à leur tour. Et le livre de Ruth commence dans un deuil, un triple deuil. Les trois hommes de la famille sont morts. Il reste trois femmes, trois veuves sans enfants. Et être veuve sans enfants, c'est se retrouver dans la situation la plus vulnérable qui soit. Pas de ressources, pas de fils pour s'occuper d'elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horizon et pas d'avenir. C'est une impasse. Ce n'est presque pas une vie, à peine une survie. La seule issue pour une veuve sans enfant est d'épouser un frère de son défunt mari, selon cette loi en Israël, appelée la loi du Lévirat. Mais cela n'est même pas envisageable pour Noémie, qui est trop âgée pour se remarier. Alors il ne lui reste qu'à retourner à Bethléem, où son clan, le clan des Éphratites, pourra lui accorder un peu d'aide, mais rien qui aille beaucoup plus loin qu'une survie. Noémie a tout perdu. Tout ce qui pouvait lui faire envisager l'existence selon son nom, car Noémie signifie « gracieuse ». Mais il n'y a plus rien de gracieux pour Noémie. Il ne lui reste que l'amertume de la perte des trois hommes de sa vie. Et sa foi ne lui est même pas d'un très grand secours, car Noémie croit que Dieu est à l'origine de ses deuils. Alors à l'amertume du deuil s'ajoute celle de l'injustice, car rien n'explique que la main de Dieu se soit ainsi abattue sur elle pour rendre sa vie si amère. Même s'il se trouve encore, hélas, des prédicateurs pour énumérer des raisons à cette conviction que Dieu est la cause de la mort des trois hommes. Premièrement, Élimélec aurait quitté Bethléem par égoïsme. Deuxièmement, il s'est installé à Moab, un pays d'idolâtrie. Et troisièmement, ses fils ont épousé des Moabites. Trois horribles fautes, trois morts. Le compte est bon. La gracieuse Noémie s'efface au profit de la mère Mara. L'épouse et mère s'est retrouvée privée de son mari et de ses deux enfants. Elle se retrouve seule. La solitude de celle dont l'existence s'est effondrée. De celle donc qui est démunie de toute espérance. De celle dont chaque jour est écrasée par le poids de ce qui est perdu. Alors oui, il ne reste qu'à retourner à Bethléem, où l'aide que les Éphratites voudront bien lui accorder lui évitera une misère totale. La solitude de la veuve sans enfant, sans ressources, sans avenir, c'est la solitude subie, et la solitude doublée de l'isolement, dans lesquelles perd de pied hommes et femmes dont l'existence est ainsi défaite, dont les appuis sont brisés et dont le lendemain n'est que brouillard. Une amertume parfois jusqu'au ressentiment, un isolement parfois jusqu'à la dépression. Et l'année que nous venons de traverser y a contribué, hélas, pour nombre de nos proches, nombre de nos concitoyens, de nos contemporains. Noémie retourne à Bethléem. C'est un retour comme une retraite après une défaite, un retour comme un repli sur soi, un recroquevillement d'être. Il reste pourtant un désir à Noémie, un désir qui transperce, perce, qui passe par-dessus l'amertume Et ce désir, c'est celui de ne pas entraîner ses belles filles dans sa défaite, dans sa retraite de Bethléem. Orpah et Ruth sont également veuves et sans enfants, mais elles sont jeunes. Elles peuvent encore se remarier, avoir des enfants avec un nouveau mari. Et le désir de Noémie, c'est que ses belles filles vivent. C'est qu'elles bénéficient de la possibilité d'avenir qu'elles ont encore, qu'elles échappent, Orpah et Ruth, à la solitude, à l'isolement, à l'amertume. Qu'elles retournent chez leur mère, parmi leur peuple, elles y ont une place. Il reste de la gracieuse Noémie une bonté de son être en relation. Ne pas entraîner celles et ceux qui sont auprès de soi dans une chute, un chemin sans espoir et dans l'amertume. Ouvrir pour d'autres une possibilité dont on est soi-même privé. Ce désir pour autrui, cette bonté, cet élan en faveur de l'autre, c'est une trace divine, une trace de Dieu dans ce récit où Dieu n'intervient pas et ne parle pas directement. Et chaque fois que cela se produit, hier ou aujourd'hui, c'est une trace de Dieu. Ne pas rabattre son malheur sur l'autre. Choisir la vie d'autrui, même quand la sienne semble sombrer définitivement. Par une bonté qu'on peut même ne pas savoir nommer. Cela vient de ce sursaut du fond de l'âme, là où Dieu souffle qu'il est bon que l'autre soit et puisse être et devenir. Noémie fait ce qu'elle peut en faveur de ses belles filles. Elle les délie de l'engagement des belles filles envers leur belle-mère, puisque cela n'aurait pas d'autre sens que celui de la misère et de la survie. Certainement faut-il parfois que des engagements soient défaits lorsqu'une histoire est arrivée à son terme. Noémie dit à Orpah et à Ruth de retourner dans la maison de leur mère. Un retour comme un départ pour une vie nouvelle. Et elle le leur dit dans une bénédiction, en les confiant à la fidélité du Dieu qui, croit-elle, ne l'a pas aidée, elle, mais qui peut cependant rétribuer la fidélité d'Orpah et de Ruth envers Noémie et les siens. Alors Orpah retourne. Elle rentre parmi son peuple avec ses dieux. Et elle le fait librement puisque Noémie l'y a autorisé. Le nom Orpah signifie dos, le dos. Mais Orpah ne tourne pas le dos à Noémie comme une fuite du malheur de l'autre. Elle retourne chez sa mère dans la bénédiction sincère de sa belle-mère. Car il n'y a pas de duplicité, pas de manipulation chez Noémie qui ne reprochera pas à Orpah d'avoir choisi de retourner puisque c'est elle qui le lui a permis. Car il ne reste à Noémie que son intégrité, sa parole fiable. Et Orpah a écouté et elle a fait confiance en cette parole. Elle est retournée chez les siens et c'est bien pour Orpah. Ruth, elle, fait un autre choix, tout aussi librement. Ruth choisit d'aller avec Noémie. Ruth choisit Noémie avec sa douleur, avec son amertume. Et ce n'est pas non plus pour y ajouter son propre malheur de veuve sans enfant. C'est pour vivre que Ruth choisit Noémie et qu'elle s'engage auprès d'elle avec cette promesse « Là où tu iras, j'irai. Ton toit sera mon toit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et c'est là que je serai enseveli. » À l'amertume de Noémie répond la promesse de Ruth. à la solitude et à l'isolement de Noémie, répond l'alliance de Ruth. Ce choix de Ruth, c'est comme l'écho d'une parole de création que nous lisons dans le livre de la Genèse lorsque Dieu déclare, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Cette parole a frémi dans l'âme de la Moabite, et ces paroles reflètent la trace divine d'une parole qui donne sens au monde et à l'humain. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, que l'humain soit seul. Et dans cette situation critique où se trouve Noémie, Ruth ne se satisfait pas de ce qui est organisé pour elle par d'autres, même par Noémie. Elle ne reste pas à sa place de jeune veuve à remarier. Elle innove et elle prend le large. C'est un autre avenir qu'un nouveau mariage que choisit Ruth à ce moment-là. Un autre avenir qu'elle ouvre sans savoir ce qu'il sera. Un autre possible dans lequel elle s'engage afin que Noémie ne soit pas seule, isolée, réduite à une survie précaire. La décision de Ruth reflète bien plus que la fidélité d'une belle-fille à sa belle-mère. Elle témoigne d'un nouvel engagement contre la fatalité des veuves âgées sans enfants, contre le rétrécissement de l'être de Noémie, contre le repli de la vie en survie. Et pour que l'existence continue à se déplier malgré les épreuves, il faut être deux, ou plus, mais pas seul, pas isolé, pas enfermé dans l'amertume. Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Dans la promesse de Ruth à Noémie, il y a ce bon, il y a de la bonté. Noémie a libéré Ruth, et Ruth interprète cette liberté en alliance. Libre de son choix, Ruth donne à sa vie le sens d'un être avec Noémie. Et cet être avec est reconnu dans toutes les Écritures comme un nom de Dieu. Dans la promesse de Ruth, dans sa réponse à la lassitude et au découragement de Noémie, il y a la trace de Dieu. Et même si la promesse de Ruth à Noémie est parfois utilisée dans les célébrations de bénédiction d'un couple, même si Genèse 2, il n'est pas bon que l'humain soit seul, préside à la création de la femme puis de l'homme, et même si ce texte de Genèse 2 introduit tout de suite la conjugalité, eh bien, le livre de Ruth ouvre le champ de la bonté et du bienfait d'une relation à tout compagnonnage humain, à toute solidarité inscrite en promesse dans le temps entre deux existences humaines, jusqu'à ce que la mort me sépare de toi. Par sa promesse, Noémie ouvre les frontières pour devenir ce qui lui était étranger. Elle entre dans un autre peuple, dans une autre foi. Ruth ouvre, elle traverse, elle passe. C'est la Pâque de Ruth pour et avec Noémie. De la mort des hommes à la naissance d'un fils. De l'amertume à la joie. De l'absence d'avenir à l'inscription dans la généalogie de Jésus. Par sa promesse, Ruth ouvre un autre possible que celui des systèmes politiques, religieux et sociaux en place. Par son alliance avec Noémie, elle devient autre que celle qu'elle était au pays de Moab, et cette altérité n'est pas un reniement, mais un épanouissement, un enrichissement. Il y a là du courage, il y a là tellement d'audace. Bien avant que Ruth aille se coucher aux pieds de Boaz endormis sur l'aire de battage des grains. L'élan pour la vie qui la porte, qui la fait parler, c'est le souffle de Dieu en elle. Le nom de Ruth est porteur de deux significations. L'une de ces significations, c'est « amie ». Et c'est bien ce que Ruth offre à Noémie. Elle devient son amie. Une relation d'alliance particulière. L'amitié qui recueille la douleur, qui ne s'offusque pas de l'amertume ni du dénuement, qui soutient de sa vitalité quand vient le découragement, qui ne se résigne pas à la solitude ni à l'isolement. L'amitié d'un compagnonnage où se partage ce qui fait vivre, où est mis à la disposition de l'autre les ressources et les ressources d'être. Et d'ailleurs, l'autre signification du nom Ruth est source qui irrigue, qui rafraîchit dans l'aridité du monde, dans la sécheresse d'une époque, dans l'âpreté des événements. Et cela va bien avec l'amitié, telle que Ruth en montre le sens. L'amitié qui rend la vie bonne, qui remet de la justice malgré les assignations et les condamnations dont aucun ordre social ou autre n'est exempt. L'amitié qui permet à une histoire humaine de repartir lorsqu'elle est bloquée dans une impasse. C'est que l'amitié telle que Ruth en montre le sens est tout irriguée par la source de vie qui est Dieu, si silencieux, si peu interventionniste dans ce livre. Mais l'amitié, selon Ruth, est toute rafraîchie et vivifiée par le souffle divin. Il n'y a pas de promesse d'amitié ou autre. Il n'y a pas de promesse sans fidélité. Et c'est la fidélité qui offre son ampleur à une promesse. La fidélité, c'est-à-dire la fiabilité maintenue de la parole de Ruth, est un remède à l'amertume de Noémie. Celle-ci ne le sait pas encore. Elle entre à Bethléem en tant que Mara, la mère. Et les temps au début sont durs pour les deux femmes. Ruth devra aller glaner dans les champs, ramasser la part des pauvres lorsque le propriétaire est d'accord, et Boaz sera d'accord. Noémie ne sera pas guérie tout de suite, mais le fidèle être avec de Ruth va œuvrer à sa restauration. La promesse de Ruth à Noémie, comme toute promesse en fidélité, parole donnée, tenue et maintenue, dégage un avenir plus loin que le quotidien et ses contraintes. Avec la promesse, il est question d'une terre où l'on vivra selon la promesse, ce qui est la signification de l'expression biblique bien connue de terre promise. Non pas une terre dont on devient les propriétaires, mais une terre où l'on peut vivre d'une vie en alliance, une vie tenue dans une promesse d'être avec, en tenant la parole et la promesse. Bethléem devient la terre promise pour Ruth et Noémie. Et cette promesse de Ruth, alliance passée avec Noémie, l'évangile de Matthieu, l'évangile de l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, la déploiera jusqu'à la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, en insérant Ruth parmi les grands-mères de Jésus. Et l'évangile de Matthieu, la finale de cet évangile, traverse même avec la même promesse, traverse l'espace et le temps, lorsque le ressuscité envoie ses disciples dans le monde entier, en leur disant « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Chers amis, frères et sœurs, nous avons, nous aussi, besoin d'une terre promise, c'est-à-dire d'une société où vivre selon une promesse passée les uns avec les autres, dans lesquelles on s'engage. Une parole donnée en vérité, une promesse pour la vie et pour le soin d'autrui, une promesse qui fonde la vie, une promesse portée par une parole fiable, puisée au souffle vivifiant, au souffle du bon qui nous précède et nous espère de création en résurrection. Amen.